Bonjour à tous, il est mardi 13h, vous écoutez Ondes Positives et j'en suis ravie. Nous allons passer une petite heure ensemble à partager des messages positifs et cette semaine, pour nous accompagner, j'accueille Amadou Kensahi. Bonjour Amadou.
Bonjour, ça va ?
Oui, très bien.
Bon.
Amadou, tu es éducateur et artiste conteur d'origine malienne et tu es une voix de CFM Radio puisque tu animes l'émission Afrique mon Afrique le jeudi à 18h. Alors je t'ai invité à Ondes Positives parce que j'aime entendre les adages africains pleins de sagesse que tu donnes à l'antenne. Ils sont toujours positifs, donc forcément ça m'a intéressée et j'ai eu envie de te rencontrer, donc voilà qui est fait.
Je suis là, je suis là en pleine forme, tout en chair et en os.
Et en os.
Voilà.
Alors Amadou, le premier message positif que tu m'as donné parle d'assumer ses racines et sa différence.
Oui.
Qu'est-ce que tu as à dire sur le fait d'assumer ses racines et sa différence ?
Ben, assumer sa différence et ses racines, bon, déjà sa différence, on va essayer de, ben, puisque je suis invité, il faut que je parle juste un peu de moi avec humilité.
Bien sûr.
Voilà. La différence, je trouve que c'est quelque chose de, qui a de plus positif qui puisse exister. Moi, je suis en France aujourd'hui. Hein, je vais dire la différence. Bon, la couleur, on va dire bon, ça se voit tout de suite hein, quand on est noir, tu es noir, on est blanc, on est blanc, on est jaune, on est jaune. Bon, voilà, ça on le voit. Mais au-delà de ça, la différence quand on rencontre quelqu'un de différent, si on va plus loin, chercher à comprendre la personne, à connaître la personne, peut-être qu'on n'aura pas en face de nous un ennemi, mais peut-être un ami.
Oui.
Donc, ça veut dire que la différence de la couleur, de la peau, tout ça, c'est presque futile, ça. Ça sert à rien. Bon, moi, quand je suis arrivé ici en France, j'ai vu que ma différence que je porte, hein, d'ailleurs, que je, différence de culture, d'éducation, d'environnement, accessoirement de couleur aussi, qui m'a permis de pouvoir échanger avec les gens ici. Oui. Donc j'entends par différence quelque chose de très positif, mais surtout à partager.
Oui.
Alors quand on quitte un pays comme le Mali, Bamako, le pays de Rouen, tu sais qu'on vient ici en France, il faudrait pas oublier qu'on doit être comme un grand baobab avec de profondes racines. Une fois qu'on oublie ses racines, eh ben on devient presque comme une chauve-souris. Et la chauve-souris, c'est une mammifère. La chauve-souris n'est ni oiseau, ni animal.
Oui.
Là, ça devient difficile.
D'accord. Alors, ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, quand on accepte l'autre dans sa différence, quand on cherche à savoir qui il est vraiment, quelque part, on se retrouve en lui.
Absolument. C'est cette démarche-là qu'il faudrait avoir, a priori. On ne parle pas le rejet, bon, il est différent. Parlons de l'étranger, pas l'étranger étrange. C'est étrange l'étranger hein, qui fait peut-être peur au départ.
Oui, étrange celui qui est bizarre.
Voilà. Mais là, il faut y aller. C'est même pas de la curiosité. Je pense que c'est humainement, il faut y aller à l'intérieur, comme on dit, kadon, akono, à l'intérieur de ce qu'on rencontre. Ça, c'est là où on va trouver la substantifique moelle nourricière.
Toi, tu dis que tu n'as jamais souffert de racisme. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu es pour que les autres t'acceptent et t'aient toujours accepté ?
Oui, je pense que j'ai eu une petite chance, en tout cas en venant ici en France, parce que là où j'étais au Mali, bon, le mot racisme, je pense que dans notre langue, on peut extrapoler, mais ça n'existe peut-être pas. Et ici, j'en ai pas connu. Parce que j'ai eu une chance, cette chance-là que j'ai eue, parce que j'étais conteur, artiste, comédien.
Oui.
Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, des adultes, des enfants, et ça m'a permis toutefois de partager ma culture avec ces gens-là.
Oui.
Venir habillé en malien, en tenue traditionnelle, parler bambara devant des gamins, des gosses qui comprennent pas malien, mais leur parler malien et leur demander « Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ?» Ah non, on n'a pas compris, mais bon, mais ça dérange pas. Hein. Bon, voilà. Et c'est cette émotion, hein, ce vécu-là, en partageant cela, ben j'ai pas connu du racisme, quoi. J'ai pas connu. Ou peut-être même si je l'ai vécu. vécu ou je l'ai su ou quelqu'un m'a dit quelque chose comme ça, mais je l'ai jamais senti.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est le fait que tu sois à l'aise avec tes différences, ton bagage, ta culture, le fait que tu les acceptes qui permettent aux autres de t'accepter aussi tel que tu es.
Je pense. Je pense. J'aime à dire qu'une fois, lorsque je me suis rendu à Perpignan avec des artistes, on était en résidence dans des cités où il y a beaucoup de populations d'origine maghrébine. Et entre deux grandes cités, il y a une cité qu'on appelle Saint-Jacques à Perpignan où c'est une cité de gitans. Donc nous, on était complètement placés au milieu de ça, des artistes venant d'Afrique noire. On était là, on a fait une semaine, mais je vous avoue que toute la population est sortie au bout d'une semaine. Hein, même les jeunes qui étaient réfractaires à ce que nous proposions et qui étaient dans d'autres formes, modes d'expression, sont venus petit à petit. Et les adultes étaient vraiment émerveillés par cela. Ils disaient, mais peut-être c'est des gens comme vous, il faut que vous soyez ici. Bon, ça c'était une semaine. Et là où j'ai découvert aussi ce que personnellement, moi ou d'autres, hein, ce qu'on porte nous, ce qu'on peut porter. Avoir conscience de ce qu'on porte, de ce qu'on peut partager ici, quoi. Dans ce cas, on peut aller au-delà de la différence de couleur, de pensée, d'idéologie, j'en sais rien, pour partager ce qu'on est, mais surtout être ce qu'on est. C'est très important.
Tout à l'heure, tu disais la différence, c'est très positif. Donc, ça veut dire que chacun de nous, on est tous différents les uns des autres, hein, sans même parler de race, de culture, etc. Que la différence, c'est un atout. C'est comme une carte dans un jeu de cartes, un atout qu'on peut tous mettre sur la table, en fait.
Oui. T'as tout dit.
là, c'était une question.
Non, mais la question, t'as tout dit. C'est un atout. Eh ben oui. C'est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la différence. Mais la différence, c'est un atout. C'est cette carte-là qu'il faut sortir, quoi. Quand c'est dur, quand c'est difficile, c'est dans la différence qu'on se rencontre. Vous savez? Même quand on marche, les vieux sages Bambara disent chez nous, même en marchant déjà, il y a ce qu'on appelle une différence déjà entre les deux jambes. Parce que les deux jambes sont décalées. Pour pouvoir avancer, un être humain, il faut que un pied avance, l'autre reste derrière et que l'autre aussi il avance. On part en décalant comme ceci. Donc cette contradiction ou cette différence qu'il y a même en nous, directement, même physiquement, c'est cela.
C'est ce qui nous permet d'avancer.
Absolument. Ouais. Sans ça, mais il y a plus rien. Bon, il y a plus rien. C'est une manière, c'est un peu radical, mais en tout cas, la différence, je pense qu'elle doit être partagée, reconnue, et même il faut la chérir. Voilà.
Et ça demande justement pour chérir, reconnaître cette différence, la chérir, c'est-à-dire la regarder avec tendresse, l'accepter. Ça demande un travail sur soi, d'acceptation, de faire partie aussi d'une minorité.
Oui. Deux choses pour ça. On dit chez nous, diridon, sodon, diridon de nyoronte. C'est-à-dire, savoir grimper à l'arbre, c'est bien. Savoir monter à cheval, faire galoper un cheval, c'est très bien. Mais se connaître soi-même, hein, c'est encore meilleur que tout cela. Ça, donc, une fois qu'on on fait un travail sur soi-même, se connaître soi-même, savoir d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, je porte ou quoi, qu'est-ce que je dois transmettre. Mais tout ça par rapport aux autres. Parce que chez nous, l'homme n'est rien, on est quelque chose à partir de l'ensemble. C'est de l'ensemble qu'il y a la singularité qui s'exprime.
Oui.
Donc, se connaître soi-même, c'est primordial. C'est après cela qu'on peut partager avec les autres. Sinon, qu'est-ce qu'on peut donner à l'autre si nous-mêmes, on n'est pas au clair avec nous-mêmes. C'est un peu difficile.
C'est aussi une façon de se respecter.
Oui.
Pour toi, la notion de respect est très importante.
Oui. Ben, le respect, comme on dit chez nous, Bonyabé, Bonyama Segimbe, Nimi Yere Bonyama Tibonya. C'est-à-dire qu'on dit retourne l'honneur à celui qui t'invitie, retourne l'honneur, le respect à celui qui te respecte, mais on ne peut jamais respecter l'autre tant qu'on ne se respecte pas soi-même.
Ouais.
Et ce respect dont on a besoin de l'autre, il faut d'abord l'imposer à soi-même, et après facilement, facilement, je dis facilement, tu peux avoir le respect de l'autre. Et bah, aujourd'hui, on est dans une société où je pense que c'est le respect qu'il faut chercher, pas la peur ou la crainte de tout ce qu'on voit, mais le respect, chacun à son niveau, quand on se respecte, on peut respecter l'autre avec sa différence, avec ce qu'il est, et écouter surtout celui qui est en face, la parole qu'il a à donner, une écoute active de la parole de l'autre, sa parole qu'il donne, et de tirer de cette parole ce qu'il y a de positif, je pense, hein, de ce qu'on peut partager entre nous. Voilà, ben, le reste n'est que...
utilité.
Comme on dit chez nous.
Alors, on s'offre une première petite pause musicale avec une des trois musiques que tu as sélectionnées pour nous.
Oui.
Alors, puisque tu m'accompagnes sur cette émission Onde Positive, c'est moi qui ai choisi d'écouter d'abord une chanson de Adia Kouyaté et Ali Boulosanto, Si tu m'accompagnes.
Rabbi samawati nena nit lu mo xam lay def te lu mo xam lay wa noppal bopam chola wati ko Rabbi samawati nena nit lu mo xam lay def te lu mo xam lay wa noppal bopam chola wati ko Si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Je n'ai point peur d'ici. T'accompagner m'appelait. Rabbi samawati nena. Nit lu mo xam lay def. Telu mo xam lay wa na bal bopam chona wati ko kabro di bo wartale saya men ka bi kuti kirinti unke lamay le sare to bu ko suwa danno ni enjibe isenya ko basi Ni enya ko bosi be jimila Tewa manyi nyai fanto Dani 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 muga kama kure kure jabi basulu mani fanta alamani fanta kelo chau ko uli kaje gugu kaita kaita basale basenta amankara chuchuchuria Rabbi samawati nena Nit lu mo xam lay def te lu mo xam lay wa Napal bapam, chona wati ko Si ti m'accompagne, na te presse pa Si ti m'accompagne, na te presse pa Je ne peine pas d'ici, t'accompagne ma play Nye ki eta Ye ki eta aja ni ye ki eta 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 eta
dini la jita mena ay jita wake dini la susuli mena ay susuli wake dini la fani ko mena na modu ni ye ki eta o
Rabbi samawati nena Nit lu mo xam lay wa te lu mo xam lay def noppal bopam chola wati ko
Si ti m'accompagne ne te presse pas Si ti m'accompagne ne te presse pas
Je ne peux pas partir d'ici T'accompagner ma play
Si tu m'accompagnes Ne
ici, t'accompagner ma plaie.
Si tu m'accompagnes, Adia Kouyaté et Ali Boulousanto. Alors pourquoi tu l'as sélectionné cette musique, Amadou?
J'ai accompagné ça parce que je... Bon, si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Bah, chez nous, Nibem Blasra Ikana Koroto. C'est-à-dire que si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Si tu viens avec moi, ça veut dire si tu viens avec moi en balade ou si tu viens avec moi ou faire quelque chose avec moi. Mm-hmm. Ne te presse pas, c'est-à-dire que écoutons-nous, ça veut dire ne te presse pas, ça veut dire ça en fait. Ikana koroto, parce que ni koroto a été un diable. Si tu es pressé, tu n'auras pas ce qui est de l'essentiel en moi. Mmh. La patience en fait, voilà.
D'accord.
Voilà, là ils font l'éloge de la patience. Voilà, il fallait avoir ce mot-là. Et aussi c'est une belle rencontre entre une dame et un homme. De chez nous qui sont de différents pays, de la Guinée et puis du Sénégal, qui sont deux peuples frères, hein. Et ces deux langues aussi qui se mélangent, le Wolof et puis le Malinké. Leur façon de jouer la musique aussi, moi je trouve que c'est vraiment une belle rencontre.
Oui.
Cela veut dire aussi que les rencontres, il faudrait pas faire forcément 1000 kilomètres pour faire des rencontres. Les rencontres, ça peut se faire sur 100 mètres, sur 20 mètres, mm-hmm. Même dans la seule d'une même famille. Moi, je vous assure que j'ai connu réellement ma mère, savoir qui elle est, en France ici.
Oui.
Et au moment où j'avais 35 ans, quand j'ai véritablement su qui était ma mère, ça c'était en France. Donc j'ai vécu avec elle pendant de nombreuses années au Mali, je ne savais pas qui elle était.
Uh-huh. Tu nous voilà. En parleras de ta mère un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, mais justement, cette chanson, elle parle de patience et puis tout à l'heure on parlait de respect. Alors j'imagine que ce sont deux valeurs importantes pour toi au quotidien dans ton rôle d'éducateur.
Bien sûr. Bah, le respect, déjà, bon, dans mon rôle d'éducateur, et, sans parler de la loi, hein, parce que bon, toute personne a droit au respect, à la dignité, tout ça, sans parler de ça, mm-hmm. Dans la rencontre avec l'autre, il faut du respect.
Oui.
Se respecter soi-même et respecter l'autre. Pourquoi ? Par exemple, quand on est... sans entrer trop en détail, les jeunes, quand on s'occupe des jeunes,
oui,
en difficulté, bon, qui ont plein de difficultés, mm-hmm. Il faudrait le respect. Le premier respect, je pense, c'est le regard qu'on porte sur eux.
Mm-hmm.
Le regard qu'on porte sur eux. Et ce regard, il s'agit pas de dire t'es incapable. Il s'agit pas de dire tu es un délinquant, il ne s'agit pas de dire tu as fait ça, tu as fait ça, mais il s'agit, à mon sens, de regarder ou de renvoyer à cette personne qu'il est d'abord une personne et qu'il, oui, est, qu'il n'est pas coupable, mais que cette personne est capable de, parce qu'il y en a. Il y en a toujours quelque chose de positif qu'on peut tirer chez quelqu'un. Et moi, je m'accroche à cela. Voilà.
Donc, tu es en train de parler de bienveillance, là.
Eh bien, oui, la bienveillance, la bientraitance, ça, c'est... Pour moi, c'est ça, c'est primordial. En tout cas, dans le métier d'éducateur, dans le rôle d'éducateur ou dans le rôle même de parent, tout mm-hmm. simplement d'adulte, il faut être bienveillant mm-hmm. Pour nos progénitures, pour les enfants, quels qu'ils soient. Vous savez, je prends un exemple, hein. Ça va faire sourire, un exemple sur actuellement, il faut prendre qui dans le foot, par exemple, Zinedine Zidane. Bon, oui. Même si c'est un peu vieux maintenant, mais vous savez, à un moment donné, il a été presque le fils de toute la France.
Mm-hmm.
La France toute entière, de tous les villages, tout le monde était fier de ce garçon-là, c'est le fruit de la France, bon, voilà. Voilà. Parce que il était bon pour tout le monde en ce moment-là, il reçoit l'honneur de tous. Mais, si, à l'envers, un Français, ici, un jeune, il s'illustre mal quelque part, ici ou ailleurs,
oui,
ben on va le traiter de non seulement de mauvais français, mais en même temps, cet enfant il n'est plus le fils de tout le monde, de toute la France, mais il n'est que le fils de ses propres parents.
Mm-hmm.
Voilà, on le laisse à ses parents, on le laisse dans son problème. Voilà, vous voyez. Donc moi, ce que je dis, un jeune, un homme, n'importe qui, que tu sois, que tu apportes quelque chose à la société ou pas.
Oui, on que doit tu te... sois un Zinedine Zidane ou un délinquant.
Ou un délinquant, voilà, on doit te prendre comme tu es et essayer de, d'inculquer tout ce que la société peut donner comme positif, comme quelque chose de bien, bien entre guillemets, dans cette personne-là. Il ne faut pas rester que sur ce qui est... voilà, qu'on rejette quoi. Le rejet...
Parce que c'est
pas.
En gardant un regard positif sur les gens, même ceux qui ont fait des fautes, qu'on leur permet de positiver leur vie, quoi, de la rendre meilleure, d'évoluer dans le bon sens.
Ben, je pense que la démarche, lorsqu'on est patient, lorsqu'on est bienveillant, lorsqu'on est regardant, lorsqu'on est respectueux, c'est le processus qui doit être cela. Hein, il doit être celui-là, là, ce qui va permettre... De changer l'autre. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, je parle pas de la loi, de la sanction et tout ça qui existe. Bon, qu'on veuille ou pas, c'est déjà écrit, hein. Bon, ça existe, hein. Quand une sanction doit tomber, elle va tomber. Vous voyez? Parce que la loi, elle est écrite. Bon, c'est pas de ça qu'on parle, parce que ça, c'est définitivement clos, parce qu'elle est écrite. Mais la relation humaine.
Oui. Pour toi, en fait, le regard positif sur les gens, c'est comme le démarrage d'un cercle vertueux.
Absolument.
D'accord.
Oui. C'est tout à fait cela et je pense que c'est important de s'accrocher à ça quoi, tu vois, ça c'est ce qui à mon sens ça nous humanise, hein, voilà.
Ouais. Donc c'est ça que tu leur apportes à ces jeunes au quotidien dans ton travail, hein?
En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire et d'être authentique, d'être moi-même dans ce sens-là et aussi en partageant cela, j'essaye de ne pas être complaisant. Voilà. Parce que voilà, la complaisance ou le mensonge, ne pas être soi-même, hein, non, il faut respecter l'éthique, oui, la déontologie, oui, mais être authentique, quoi, et puis être bienveillant et éventuellement transmettre cela, parce que j'ai quand même eu certains, je connais des jeunes aujourd'hui à Montauban qui ont 25, 26, 26 ans, certains 27 même, que j'ai connus il y a plus d'une dizaine d'années. Des fois qu'ils viennent me voir ou qu'ils m'appellent pour X ou Y raison, qui me disent ah, tu m'avais dit ça un jour. J'avais oublié, mais quand même, j'ai dit ah bon.
Donc, ça a été important pour eux.
La parole et la portée, quoi. Ben, je le dis avec mon cœur, je le fais avec mon cœur, et là, je continuerai à faire cela.
D'accord. Voilà. Tu as raison, je pense.
Voilà.
Alors, tu m'as raconté un petit bout de ton histoire personnelle, Amadou. Hein. Toi, tu es né à Bamako, la capitale du Mali, où tu vivais avec tes parents. Et puis, vers 13 ans, ton père t'a renvoyé au village.
Oui.
Tu nous expliques un peu ce qui s'est passé.
Oui. Écoute, à Bamako, donc la capitale du Mali, hein, où même quand je suis né, il y avait déjà des vieilles voitures, tous les Renault 12 que les Français avaient déjà usées, se retrouvaient à Bamako. Oui. On les appelait au revoir la France. Et donc, il y avait beaucoup de voitures diesel ou essence qui faisaient beaucoup de fumée dans cette ville de Bamako. Bon, oui, je suis né là et je suis allé à l'école primaire à Bamako. Oui, c'est vrai, 13, 14 ans, j'aimais pas beaucoup aller à l'école. Quand bien même que j'avais du potentiel, je sais pas comment on dit, potentialité, je partais pas à l'école et ma mère, elle a tout fait pour que j'aille à l'école. Elle me disait, mais va à l'école, tu seras journaliste un jour. T'as vu ton oncle Camien, il est journaliste, tout le Mali le connaît, tu peux être comme ça. Va à l'école, tu peux être avocat, tu peux, bon. Je disais à un moment, oui, mais bon, je partais pas. Et du coup, c'est mon père qui a pu résoudre cette question-là, en disant, mais mon petit, à 13, 14 ans, tu penses comme un garçon de 20 ans. Tu verras ce que je vais faire. C'est là où il m'a envoyé dans mon village, à 800 kilomètres de Bamako, dans un village où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de sucre pour mettre dans la bouillie, où tu mangeras pas d'huile, où voilà.
C'est un autre monde.
C'est complètement un autre monde. Donc je suis allé là-bas pour l'école. Donc j'ai fait le collège là-bas.
Que ça t'a fait réaliser en fait cette expérience?
Ben, je me suis découvert là-bas, je pense. Quand je suis arrivé, d'abord, la première chose, c'était, j'ai coïncidé avec le moment de récolte du mille.
Oui.
C'était les moissons. Je suis pas allé au champ. Je suis resté dans le village parce que je venais de Bamako. Je dis, bon, je suis un citadin. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans les champs? Je suis resté dans la journée, mais il n'y avait pas de, de jeunes garçons, il n'y avait pas de, d'enfants, il n'y avait personne dans le village. J'étais seul dans le village et avec quelques brebis égarées, il y avait des vieilles personnes quelquefois qui passaient. Des mouches, il n'y avait rien.
Des mouches. Tu t'es trouvé mis à l'écart tout seul, en fait.
Moi, tout seul. Je me suis isolé tout seul. Et je me souviens, j'ai rencontré une vieille dame, comme on dit chez nous, là. J'ai oublié son prénom maintenant. Et elle m'a dit, Hama, qu'est-ce que tu fais ici? Et presque, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'était presque une honte pour moi. Y a personne. Mais t'es malade, t'as quoi? Mais ce même jour, j'ai repris le chemin des champs. Je suis allé. De moi-même, on m'a pas forcé. Quand je suis arrivé, mes petits cousins, ils se regardaient, ils faisaient de petits sourires et tout ça. Bon, je me suis mis à travailler, j'ai appris à faire la récolte du mil que j'avais jamais fait. Et aussi, l'école, je suis allé à l'école, je me dis, tiens, il y a que le collège dans ce village. Il faut que je finisse vite avec ce collège et aller au lycée à Bamako. Sinon, je vais rester ici, cultivateur, berger et tout. Donc, j'ai pris conscience, moi-même, à mon niveau, à 14 ans, je me dis, non, tu vaux peut-être mieux que ça, quoi. Et finalement, je dis mon père qui m'a envoyé là-bas en termes de sanctions ou en tout cas comme je l'avais pris peut-être comme ça, ce n'était pas ça, quoi. Il voulait que mes yeux s'ouvrent et j'ai eu les yeux ouverts.
Parce que tu dis qu'en fait la communauté du village t'a construit.
Oui, la communauté du village m'a construit absolument. Déjà au niveau même de mes camarades d'âge. Qui étaient déjà responsables à leur âge.
Oui.
À 14 ans, qui étaient devenus déjà des hommes, qui étaient capables de s'occuper des champs. Je me dis, mais moi, je peux pas rester enfant alors que ceux qui ont le même âge que moi sont déjà matures, ils font des choses. Bon, hein?
Responsables, ouais.
Responsables. Et deuxièmement, j'ai trouvé là-bas ma grand-mère et puis mon grand-père. Mes grands-mères. Mon arrière-grand-mère, mes arrière-grand-mères même que j'ai connues, moi.
Mais c'est les racines du baobab. Ah,
absolument, j'ai connu mes arrière-grand-mères et je vous assure que les personnes qui m'ont le plus aimé au monde, ce sont eux. Ils m'ont donné tout. Ils m'ont donné de l'amour, ils m'ont donné de la parole, de l'assistance, ils m'ont construit de leurs paroles et même de leurs regards et de leur respiration, de leur souffle. Voyez-vous, mon grand-père paternel, il est mort dans mes bras quand j'avais 17 ans, je crois, 17 ans. Mais j'étais fort. J'ai pu, canaliser cela. Ouais. Mais ici, en France, ici, lorsque j'ai perdu un ami qui m'était cher, j'ai eu du mal à supporter ça. Là, je me dis, mais est-ce que j'étais beaucoup mieux construit à 17 ans quand j'étais au village que maintenant, quand je vis dans le monde occidental? Ce n'est pas pareil, mais, voyez-vous, quand je parle là, je parle avec un peu d'émotion, parce que ce village, oui, ça m'a construit. Oui, quand je pense, même aujourd'hui, s'il m'arrive des choses à résoudre, franchement, quand je me retire un peu de tout le brouhaha, de tout le bruit, et que je pense à mes arrière-grands-parents, sans penser même à ma mère ni à mon père, à eux, je pense que j'aurai le début de la solution au problème qui se pose.
C'est dans les racines qu'on trouve la solution.
Absolument. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et ma mère et mon père m'ont permis cela. Donc, je ne peux que les remercier toute ma vie.
Oui.
Voilà. Et c'est ce que j'essaye aussi, moi, de transmettre à ma manière, non seulement à mes propres enfants. Hein, et ici, en France, hein, mes enfants, moi, je leur racontais des contes en tant que conteur. La nuit, je leur contais des contes du Mali dans ma langue. Les proverbes dans ma langue, ils parlaient.
Dans la nuit, pendant qu'ils dormaient?
Oui, dans la nuit. Ils dormaient comme ça. Ils ne pouvaient jamais dormir si je ne leur raconte pas les contes dans ma langue. Et puis même les devinettes qu'ils connaissaient dans ma langue, ici, à Montauban. Donc, je pense que ce début de transmission, je l'ai fait. Et je continuerai. Parce que pour moi, la seule valeur qui vaille, en tout cas, ce qui est primordial, c'est celle-là.
D'accord.
Voilà.
Alors cette expérience aussi de retour au village, ça te permet de témoigner de l'importance de l'accueil, se sentir accueilli.
Oui.
En quoi c'est positif de se sentir accueilli?
Oui, quand je suis arrivé dans mon village, oui, ça n'a pas été dit, ah, moi c'est le fils d'un tel ou le petit-fils d'un tel qui nous arrive parce que parce qu'il va pas à l'école, parce qu'il aime trop jouer au foot à Bamako, parce qu'il va dire, il fait que chercher les filles. C'est pas ça qu'on m'a dit. Mmh. Quand je suis arrivé là, on m'a dit, ah, le fils d'un tel arrive, et tout le village était fier de leurs enfants, de leur petit-fils arrive dans leur ville et qui vient de la ville. Surtout, c'était ça. Parce qu'il y a plus d'abondance dans la ville, mais, et mon grand-père, d'ailleurs, il était très content, parce qu'en me voyant, peut-être que c'était l'image de mon père que lui, il avait éventuellement perdu, parce qu'il était finalement, il a fait de l'exode en ville. Donc, il y a cela. Et oui, j'ai été accueilli par tout le monde. C'est ça qui m'a donné confiance aussi, hein. Je pense que c'est ça qui m'a donné confiance à vouloir rester dans ce village le temps qu'il fallait, faire ce qu'il fallait faire, prendre mes responsabilités et repartir à Bamako. Et depuis, ce village-là, je ne le laisse pas tomber. Et même, ce village est ami avec beaucoup de gens de Montauban ici. Mm-hmm. D'où il y a une association créée ici à Montauban qui continue à aider ce village, les femmes du village, dans beaucoup de choses.
Oui. Voilà. Donc accueillir l'autre, c'est lui permettre d'être en confiance, en sécurité.
C'est le début de la relation, l'accueil. C'est le début de la relation. Vous savez, quand vous partez chez quelqu'un, le regard de la personne, quand vous dites bonjour, quand la personne vous répond bonjour, ou la personne, la manière dont il vous regarde, automatiquement, on le sent. Ça se cache pas, on le sait. Quand on est bien accueilli, on est en confiance. C'est le début de la relation, mais quand on est mal accueilli, on peut forcer, mais déjà, il y a quelque chose qui est cassé au départ, quoi. Pour construire ça, ce n'est pas facile.
On partage un deuxième extrait musical. C'est Bokolo, Idrissa Soumaoro.
Oui.
C'est un chanteur musicien malien.
Bien sûr, mais là, tu prononces bien. Bokolo, tu le prononces très bien. Idrissa Soumaoro, tu le prononces très bien.
Eh ben,
on peut l'écouter et puis après.
On en parle.
Oh, d'accord.
Ne botola Bamako, lombado kuoma, aywa mogolu dirisa la tofle anade. Ne bofo auye, tuana tagamana mogomogo filibo koloma, ifilito korole tere. Bamako lomado kuma aywa mogodu dirisat la tofle anade nebo ye tuana sigimana mogomogo filibo koloma ilabanchugole. Oh. ibokoloko.
Bokolo Idrissa Soumaoro. Alors, le seul mot que j'ai compris dans la chanson, c'est Bamako. De quoi elle parle, cette chanson?
Idrissa Soumaoro, ouais, quand il dit Bamako, en fait, lui aussi, il est né à Bamako, hein, comme moi. Donc, il dit, lorsque lui, il a quitté Bamako pour aller ailleurs, en aventure, comme on dit chez nous, les gens, ils ont crié en disant, ah, Dirissa Watofle, Dirissa est parti, nous allons perdre Dirissa. Mais lui, il répond aux gens, il dit, vous allez jamais me perdre parce que moi, je vais jamais perdre ma colonne vertébrale. Vous, d'accord, je vous perdrai jamais, mes racines, je les aurai. Et donc, c'est pour ça, il s'est pas perdu. Actuellement, il est à Bamako, même s'il était parti. C'était un peu mon cas. Moi, par exemple, dans mon village, on m'appelle Hama Bamako. Mm-hmm. Hama, c'est mon prénom. Bamako, c'est Bamako qu'on a ajouté sur mon prénom.
Oui.
Voyez-vous, donc, moi, je suis allé au pays d'Ogon, chez moi. Je suis resté là-bas. Je suis revenu à Bamako, où je suis né. J'ai fait mes études. Je suis là aujourd'hui à Montauban, à raconter des histoires, à faire le rôle d'éducateur. Bon, tout ce que je fais. Avoir des amis ici. Et ces amis-là, qui sont finalement des amis aussi de ce village-là, du pays d'Ogon, voilà, qui font énormément de choses là-bas, qui ont eu des amis, qui ont parrainé des enfants là-bas, qui vont à l'école, bon voilà.
D'accord.
Donc, Bokolo, la colonne vertébrale, je pense que c'est l'essentiel.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça parle de la colonne vertébrale et des racines finalement.
Et des racines, voilà.
D'accord. Alors, en parlant de racines, tu nous parlais de ta maman tout à l'heure.
Oui.
Et elle a eu un rôle important, ta mère, avant que tu partes au village, parce qu'elle a un peu magnifié cette expérience. C'est même pas un peu, c'est beaucoup.
Bien sûr. Et oui, lorsque je devais aller, dans mon village, mon père, quand il me l'a annoncé, il pensait que j'allais pas partir. Parce que, comme on dit, j'étais un petit bandit, on dit un bandit hein, chez nous.
C'était un petit rebelle, quoi.
Voilà, un petit rebelle, celui qui ne veut pas aller à l'école. Il aime que le foot. Bon, les filles là-bas, par-ci, par-là, tu vois. Donc, moi, j'étais un bandit et donc ce bandit, mon père, il se dit, le jour J, il va pas y aller, quoi. Mm. Il risque de quitter la ville pour aller je sais pas où. Donc, il a... Mais ma mère, elle a pris le devant pour me conter, me raconter, me dire le village. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, elle m'a totalement magnifié le village en disant, ben, quand tu vas dans ton village, tu verras que, il y a tes grands-parents, il y a ceci, cela. Quand tu vas là-bas, tu vas boire du lait frais parce que vous êtes ceux qui ont les plus de troupeaux que tout le monde. Ben, c'était vrai, en plus. Mm-hmm. Et, mais moi, j'avais jamais, touché, quand j'étais à Bamako, une vache, ou même le traire une vache. Elle me dit, mais tu vas faire la traite avec tes cousins, ils vont t'apprendre comment il faut le faire.
Oui.
Tu vas avoir un vélo, tu auras un vélo au champ. Donc, elle m'a magnifié, cette partie. Et finalement, j'étais pressé. J'étais pressé d'y aller. J'étais pressé d'y aller pour découvrir tout ça. Et quand je suis arrivé, j'ai pas été dessus. Hein,
elle t'a fait rêver, en quelque sorte?
Ah, mais elle m'a fait tellement rêver que j'en dormais pas. C'est qu'à Bamako, je commençais moi-même à raconter à mes copains citadins.
Mm-hmm.
Vous savez pas la chance que je vais avoir au village, il y a ça, et voilà. Et des fois, elle me disait même le nom de, c'est-à-dire que chez nous, les troupeaux, les vaches ou les bœufs ont des noms. En fait, on les donne des noms ou des qualificatifs.
Mm-hmm.
Tu vois, elle s'était même renseignée, elle me donnait même des noms. Tu vas trouver que, il y a tel bœuf là-bas qui est le patron du troupeau, il s'appelle comme ceci, comme cela. Voyez-vous?
Mmh.
Donc, j'étais pressé, quoi. Voilà.
D'accord.
Et ça, elle a eu un rôle déterminant. Et des fois, je me sers de ça, même dans mon travail, franchement.
Ouais.
Quand ça m'arrive de me servir de ça, je me dis,
Dans ton rôle d'éducateur ou dans ton rôle d'artiste-conteur?
Ouais, mais bon, dans mon rôle d'artiste-conteur, ça, c'est en permanence en moi.
Ouais.
Ça, c'est totalement ancré en moi. Ça, c'est sûr, ça, c'est définitivement, c'est dedans, quoi.
Faire rêver.
Voilà. Ouais. Ça, c'est dedans. Maintenant, dans mon rôle d'éducateur, je dis, par déclinaison, on peut arriver à des choses. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas forcément par la sanction, ce n'est pas forcément par la force, ce n'est pas par les lois qui sont écrites, qui existent, qu'il faut. C'est peut-être par déclinaison. Et cette déclinaison, c'est de partir de la personne elle-même, mm-hmm. de ce que la personne produit de positif en lui. Il faut se saisir de cela et on l'amène ailleurs. Mm-hmm. C'est ça. Parce qu'il y en a, il y a ça chez tout le monde. Il faut avoir la patience, le regard, pour trouver ça.
Non, en fait, tu es un porteur de parole et un porteur d'espoir.
Ben, écoutez, moi, en tout cas, j'ai compris à un moment donné, parce que quand j'étais plus jeune, c'était pas le cas, mais plus j'avance, je me dis, je suis porteur de quelque chose, il faut que j'en ai conscience de cela, avec toute l'humilité qu'il faut. Je porte la parole, comme les Douaniers disent, la parole humide, pas une parole sèche.
D'accord.
Parce que la parole humide, ça, c'est une parole qui vient du ventre, comme on dit chez nous. Mmh. Il vient du ventre, ça monte jusqu'au niveau de la poitrine. La parole est réchauffée par les poumons et par le cœur. Et c'est cette parole qui sort, hein, par la bouche et entre les dents, tu vois, comme le métier à tisser du tisserand. Et cette parole, elle est humide parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle a...
Elle vient des entrailles.
Des entrailles, elle est passée par tous ces mois. Mais la parole sèche, ça c'est la parole qu'on, les Dogons disent là, sonyong. Sonyong, c'est la parole pourrie.
Mm.
Mais que Dieu nous en préserve. Cette parole, elle n'est pas réchauffée du tout.
Ouais.
Cette parole ne vient pas des entrailles. Et cette parole-là, j'espère que je ne la dirai point. Voilà.
Ok. Alors, on parlait d'espoir, Amadou. Tu as un joli conte, le conte du moineau et du lion affamé.
C'est vrai. Eh oui.
Parce que moi, j'aime bien entendre tes adages et tes contes.
Ah, mais est-ce que tu veux dire ça là, hein? Tu l'as retenu ou pas?
Oui, je l'ai retenu. C'est l'histoire d'un moineau qui est sur une branche.
C'est vrai.
Voilà. Et puis d'un lion. Affamé, qui tourne autour de l'arbre.
Oui.
Et il veut manger le moineau.
Il veut manger le moineau. Et ben, le lion dit au moineau, mais descends. Il lève sa tête comme ça. Il dit au moineau, descends, je vais te manger parce que j'ai faim. Je suis le roi de la brousse. Tu descends, je te mange. L'oiseau dit, eh ben, si t'as faim, c'est ton problème. Le petit oiseau, le petit moineau, il dit, non, je ne descends pas. Il dit, eh ben, il faut que tu descends, je vais te manger. Il dit, non. Trois fois, il a dit, non. Le lion réfléchit un moment et dit, eh ben, petit moineau, si tu descends pas de l'arbre pour que je te mange, je mangerai ton père. Si tu descends pas, je vais manger ta mère, je mange tes sœurs et tes frères et toute ta famille et toute ta lignée. Le petit moineau a dit, tu peux les manger, mais moi je ne descends pas. Tu ne me mangeras pas, je ne descends pas. Le lion réfléchit encore et dit, ah, petit moineau, si tu ne descends pas, je vais manger tout ton espoir. Je vais manger ton espérance. C'est en ce moment que le petit moineau est descendu de l'arbre et venu sous l'arbre et au pied du lion en disant, maintenant, si tu veux me manger, mange-moi. Le lion dit, mais ah, quand j'ai parlé d'espoir, tu es descendu, mais et tes parents, il a dit, oh, les parents, si on n'a pas notre père, notre maman, nos frères et sœurs, ce n'est pas un problème, on peut vivre. Mais quand on n'a pas d'espoir, on ne vivra jamais. Et c'est là où le lion a dit, ah, donc je ne te mangerai pas. Je pense que tu dois voler avec tes petites ailes constellées d'or pour propager ce message-là d'espoir partout où tu passes. Et c'est là, je me dis, j'essaie d'être comme ce petit moineau-là, porteur de paroles, de messages d'espoir et surtout être comme un tambour qui résonne, d'espoir à travers, partout où je passe. Voilà.
Magnifique, Amadou. Merci beaucoup pour le conte.
De rien.
Alors, on écoute une dernière musique que tu as sélectionnée aussi. Et elle parle d'espoir, c'est du blues.
Oui.
C'est Old Georgie Buck.
So, I said, Georgie Buck is dead. And the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bed. Shortening in his bed, swimming in his head, singing ha, 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 ha. Listen, Georgie had a wife, just a moan for his life. Three children there were properly raised. Ooh, oh, Georgie Buck. Oh, Georgie Buck. Oh, Georgie Buck said so. Georgie Buck is dead. And the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bread. Uh-huh, shortening in his bread, swimming in his head. Ha, 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 ha. Is dead, and the last words he said, saying he didn't want no shortening in his bread. Shortening in his bread, swimming in his hair. Come on, mama, ha, 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 ha. In his bed, swimming in his head. Come on, mama, mama, ha, 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 ha. Oh, Georgie Buck. Oh, Georgie Buck. Oh, Georgie Buck said so. Me said, Georgie Buck is dead.
laying in his bed, swimming in his head, singing ha 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 ha.
Georgie Buck de Taj Mahal et Toumani Diabaté. Alors, tu as choisi cette musique parce qu'elle t'évoquait quoi ?
Bah oui, surtout, franchement, l'anglais, je ne comprends pas bien. Je comprenais avant un peu, mais j'ai tout oublié. Avec l'âge, voilà, ça ne me sert pas trop l'anglais pour l'instant. Et, mais le rythme, déjà, c'est le rythme d'onso, le rythme des chasseurs de chez nous, que j'aime très bien. Et au-delà de ça, la rencontre aussi hein, de ce grand homme de la musique mondiale, le Taj Mahal, et Toumani Diabaté, qui est l'un des plus grands joueurs de kora au monde, qui se sont rencontrés. Donc, mélange de la musique malienne, musique de chasseurs, du blues et tout ça. Ça évoque aussi les racines. Hein, on sait, le blues, voilà, ça vient... moi, je dirais même du Mali. Et ben voilà. Donc, du coup, cette rencontre qui m'a beaucoup plu et la musique aussi, elle est belle, quoi. Voilà.
Le blues, c'est le peuple noir qui chantait pour garder espoir. Hein.
Absolument, dans les champs de coton. Voilà, et c'est pour ça que l'origine. Moi, quand j'écoute le blues hein, des musiciens américains ou que j'écoute ça, franchement, je me dis mais. Ils ont été à Ségou ou pas à Ségou, c'est la région Bambara du Mali. Mais la musique Bambara, c'est du blues, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à écouter des gens comme Ali Farka Touré, d'ailleurs que vous connaissez, que tu connais peut-être. Bon, Ali Farka Touré, il fait du blues, voilà, du Mississippi. Bon, il faut écouter ça. Il faut écouter aussi Lobby Traoré, qui est un gars de Ségou qui est décédé. Bah, Ali Farka aussi. Hein. Ils ont été mangés par la terre. C'est pas eux qui ont eu honte, mais c'est la terre elle-même qui a eu honte. Voilà. Ils sont couchés sous la terre, mais ils ont laissé de très, très bonnes musiques.
D'accord. Merci pour le partage. Alors, on parlait de l'espoir, de la parole que tu portes, de l'espoir que tu donnes à ces jeunes en difficulté, et d'une façon générale à tous ceux que tu rencontres dans ton rôle d'artiste-conteur. Et puis aussi, tu œuvres dans une association. L'association Angata, qui apporte de l'espoir au Mali, à Bamako.
Absolument. Angata, ça veut dire allons-y.
Oui.
Allons-y, ça veut dire qu'il faut être dans le mouvement, quoi. Voilà. La parole, c'est bien, mais la parole, il faut que ça se traduise par l'acte. Donc, Angata, c'est celui-là. Angata, c'est une association, vous voyez, ici à Montauban, que nous avons créée en 2008 pour soutenir une association au Mali, une bibliothèque que j'ai pu mettre en place avec des amis en 1998, qui continuent toujours dans un quartier populaire à Bamako. Et cette bibliothèque permet de soutenir, de faire du soutien scolaire. Il permet aussi de l'alphabétisation pour les mamans qui n'ont jamais été à l'école, hein, pour leur petit commerce, qu'ils puissent compter et tout ça. Et aussi des sorties culturelles que nous organisons. Bah, à l'époque, j'arrivais avec 100 € ou 150 € à faire des choses pour eux. Ben maintenant, nous voulons le développer, hein, faire vraiment un vrai centre, un pôle social et culturel. Donc du coup, on a créé cette association pour soutenir l'association qui est au Mali.
Et vous avez besoin de bienfaiteurs alors?
Ah ouais, carrément. On a un projet ambitieux, un pôle. Et d'ailleurs, on va lancer quelque chose sur... ils appellent ça le profonding, je sais pas.
Un crowdfunding.
Ah, ben voilà, c'est ça. J'ai déjà acquis un terrain là-bas. Nous allons le bâtir, faire un pôle social et culturel avec bibliothèque multimédia, une salle où il y aura du spectacle pour enfants, mais uniquement que pour enfants. Il y aura que ça. Et puis, on va élever des abeilles, faire du miel, mais du miel. Du bon miel, on va faire...
Du bon miel malien,
et voilà. On va vivre avec les abeilles en haut, nous en bas, des ateliers, voilà. un lieu culturel, l'accès à la culture pour les enfants, l'accès aux droits pour les enfants, faire une cuisine collective aussi pour que les enfants de la rue puissent venir participer, manger là-bas, qu'on parle de leurs droits et essayer de les insérer dans la société. Voilà, okay. c'est mon projet futur et je pense que c'est ce que je vais faire.
Donc on mettra les coordonnées de l'association Angata sur le podcast de l'émission pour les auditeurs que ça intéresse.
Ah, ça serait bien, hein.
Merci beaucoup Amadou pour ce voyage en Afrique et d'une façon générale dans ton monde plein d'optimisme et d'espoir.
Ben je te remercie toi et l'émission aussi CFM Radio pour m'avoir permis de prendre la parole et puis de dire ce que j'ai entre ma gorge et ma tête. Je vous remercie.
Et les auditeurs peuvent te retrouver le jeudi à 18h sur CFM Radio dans l'émission Afrique mon Afrique.
Absolument.
Chers auditeurs, j'espère que vous aurez apprécié le voyage en notre compagnie. On se retrouve samedi à 21h pour une rediffusion de l'émission. Émission que vous pouvez également trouver sur le podcast cfmradio.fr. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail dorothee.alio@hotmail.com si vous voulez participer à l'émission. Bonne semaine à tous, dans l'espoir et l'optimisme. À mardi.